J'avais noué des contacts avec les gens du centre audiovisuel et j'avais un peu travaillé aussi avec eux, en particulier pour une affaire tout à fait accidentelle, mais il se trouvait que pendant que j'étais élève à l'école, Rouquier faisait un film sur le lycée Henri IV. Et ce film devait présenter, c'était commandité par l'Éducation nationale, c'était sur le second degré, et on allait de la sixième aux classes préparatoires, et il devait y avoir une séquence sur chacune des classes. Alors Rouquier avait trouvé des choses comme ça, puis pour la philosophie, il n'arrivait pas, on lui avait donné des profs de philosophie, mais il disait que ce qu'il racontait était absolument pas photogénique. Donc il a demandé à Lefranc, qui était au centre du visuel à l'époque, et vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait à la fois dire quelque chose de philosophique et en même temps que ça ait un rapport avec les images. Alors Lefranc a songé à moi et j'ai pris contact avec Rouquier. J'ai proposé à Rouquier le schéma d'une leçon de philo sur les illusions de la perception, ce qui était une chose tout à fait visualisable. Rouquier a été enchanté et Lefranc m'a repéré à cette époque-là. Bon, ensuite, j'ai quitté l'école, j'ai enseigné pendant 2 ans et quand il y a eu un poste libre au centre audiovisuel, Lefranc me l'a proposé. J'y suis resté 4 ans.
4 ans.
De 55 à 59.
De 55 à 59, et vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là, pendant ces 4 années?
Théoriquement, j'étais pour faire de la recherche. Mais dès l'arrivée, mon titre était chargé des études et recherches.
Oh là, dangereux.
Et sous le nom études, on faisait passer la formation. Alors au début, il y avait un petit nombre de petits stages qui se faisaient 3 semaines, 15 jours, à la demande d'organismes spécialisés qui avaient besoin d'un stage audiovisuel. Alors on travaillait là-dessus. Et puis ensuite, ça s'est multiplié et Lefranc a milité pour qu'il y ait une fonction formation au centre audiovisuel, c'est-à-dire un stage à l'année. Alors ça change complètement les données du problème. Quand vous avez un stage à l'année, vous y mettez des gens d'intérêts différents, de formations différentes, et vous avez donc un public tout à fait hétérogène, et ce n'était pas du tout l'esprit des petits stages très spécialisés qu'on faisait pour le Bureau du développement agricole ou pour les centres sociaux d'Algérie.
Oui, ça, vous avez complètement changé d'ampleur,
ça,
en fait.
Ça changeait tout, devenu, et ça devenait une chose à plein temps. Ouais. Ajoutez à cela que quand on a un stage, bon, il y a 30 stagiaires, il y a 30 places, donc ces 30 places, il faut les distribuer. Ça se sait, il y a des gens qui savent qu'il y a un stage à Saint-Cloud pendant 1 an, donc c'était l'occasion pour certains de venir passer 1 an à Paris, etc., etc. Après, ce qu'ils venaient, c'était tout à fait autre chose. Il y a très peu de gens qui aient bénéficié du stage audiovisuel pour retourner ensuite sur le terrain. Parce que l'objectif, c'était ça, faire des spécialistes qui passent de l'audiovisuel de terrain. C'était mal embarqué pour l'audiovisuel éducatif. Parce que la section recherche était minuscule, on était 2 à peu près, puis on faisait autre chose en même temps. Alors moi, chargé des études et recherches, j'avais les études. Au début, c'était ces petits stages, puis ensuite, c'était un stage à l'année. Alors un stage à l'année, ça veut dire dès le lundi matin, en salle avec 30 élèves, et puis il fallait ensuite les occuper, travailler, etc., etc. Et la recherche, ça venait après. Bon. Et en fait, moi, j'en ai gardé l'idée que ce qui était fait en recherche était très très minime et très peu utile. On travaillait beaucoup sur des affaires de comparaison, la classe avec un film et puis la classe sans film. Bon, c'est immense comme sujet. Bon, si on veut faire une recherche sérieuse sur l'audiovisuel, bien sûr on peut tout tirer de là, mais il faut faire que ça.
Il y a trop de paramètres, presque.
Il y avait exactement, il n'y avait pas de définition avec l'audiovisuel, sans l'audiovisuel, mais avec l'audiovisuel on amenait tellement de choses. Et puis la classe faite avec l'audiovisuel et la classe faite sans audiovisuel, c'est pas la même classe. C'était ça l'histoire aussi, c'est que les contenus de l'enseignement dans chaque cas étaient très sensiblement différents. Quand j'ai quitté, je savais très bien que je quittais ça et que je redevenais simple professeur, détaché ou pas détaché. Mais ce statut d'assistant était tout de même assez intéressant. Il avait un inconvénient, il fallait faire une thèse. Mm-hmm. Ça, la direction de Saint-Cloud voulait absolument qu'on fasse une thèse. Le secrétaire général était intransigeant là-dessus, M. Canac pour ne pas le nommer. Et alors, on m'avait demandé de donner un sujet de thèse. Alors, j'ai donné un sujet de thèse qui a été considéré comme n'étant pas un sujet de thèse.
Alors,
alors le sujet de thèse, c'était le suivant. C'était « Distorsion intentionnelle et distorsion non intentionnelle » dans le film d'information concertée, de points, enseignement, publicité, j'ai oublié le troisième, bon, enfin je m'excuse.
Non, c'est pas grave.
Voilà. Et alors ça a été considéré comme n'étant pas un sujet de thèse pédagogique. Alors là, j'ai passé 2 années qui étaient peut-être les meilleures années de ma période audiovisuelle, parce que j'étais responsable des programmes, c'est-à-dire j'étais chargé de faire la liaison entre les enseignants qui étaient producteurs d'émissions, producteurs et présentateurs, programmateurs, et puis les gens de la télévision, qui mettaient ça en image. Et ça n'a pas trop mal marché, parce que je me suis ingénié à les mettre tous autour de la même table. Parce qu'avant, on avait les pédagogues qui tricotaient leurs petits sujets bien construits, etc., et puis qui passaient le modèle aux techniciens et qui devaient mettre ça en image. Alors ça collait jamais parce que les pédagogues se plaignaient d'être trahis par les techniciens, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait dire, etc. Et les techniciens disaient, mais ce qu'ils présentent là, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, etc. Alors, moi j'ai eu l'idée tout à fait simple de les faire travailler dès le début, dès le moment où on a dansé un sujet, sur le sujet, bon, on a dans 6 semaines à faire quelque chose sur les chemins de fer européens, bon, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on monte, des trains, des locaux, des machins, etc. Et alors, ils s'entendaient un peu, et puis je les réunissais comme ça. C'était encore très marginal, et puis ça allait toujours rester, parce que si on avait, j'ai pas les chiffres, mais le nombre d'écoles équipées et utilisant la télévision, c'était tout de même minuscule. Deuxièmement, faire des programmes pour tel domaine, telle spécialité, etc. On faisait des séries pour ça. Mais disons qu'on faisait une série de sciences physiques pour le second degré. La série, c'était 6 émissions. C'est pas une série, 6 émissions. Hein? Bon, d'accord, on peut, c'est très bien parce qu'on fait référence à l'émission antérieure. Et autrement, les émissions, c'était des sujets qui tombaient comme ça. Hein, il y avait eu un comité des programmes qui disait ben, il faudrait tout de même parler un petit peu de l'architecture au Moyen-Âge et comme ça. On avait 2 émissions là-dessus, et puis c'était tout. Puis parfois une seule seulement. Puis après, on parlait de l'architecture au XVIIIe siècle. Et encore, on les mettait dans l'ordre chronologique, mais souvent certaines émissions n'avaient même pas d'ordre chronologique. Donc on ne pouvait même pas jouer sur l'effet de série. Le problème, c'était parcellisé. Mais c'était un très petit nombre d'émissions sur un petit secteur à chaque fois. C'est les gens qui venaient à la scolaire aussi. Alors ça, c'est un autre problème. C'est le public des gens qui venaient faire des émissions scolaires. Alors, ou bien c'était le spécialiste. Hein, on fait une émission sur les carbures d'hydrogène. Alors on a deux spécialistes des carbures d'hydrogène et c'est ceux-là qu'il faut faire venir et pas d'autres. Bon, alors ils ont un poids terrible sur la mise en forme, etc., etc., etc. Bon, mais il y avait aussi des gens qui venaient parce qu'ils aimaient faire de la télévision. Ils aimaient parler, ils aimaient, puis c'était la télévision, etc. Et qui étaient sensibles à la mise en forme. Pas seulement pour eux, mais bon. Et qui, une autre idée qui était dans l'air, c'était que la télévision devait faire voir ce qu'on ne pouvait pas voir dans la classe, dans un labo. Donc on sortait, on montrait des choses, il y avait des séquences filmées à l'extérieur, il y avait enfin... Ça a commencé sur deux classes, puis de mon temps 20 classes, et puis ça a été jusqu'à 230 classes.
Et vous êtes resté sur ce programme pendant combien de temps, Max, en
fait ? Moi je suis arrivé en 63. Donc sur le début du projet quand il était en gestation, on ne savait pas ce qu'on ferait, si même on ferait de la télévision et comme ça. Et puis bon, moi j'ai poussé pour que ce soit la télévision et que ce soit la télévision à haute dose.
À haute dose?
Oui, oui.
Pourquoi à haute dose?
Parce que la télévision avec laquelle j'avais travaillé, c'est ce que je vous disais, des séries qui faisaient 6 émissions et puis au revoir.
Ouais. C'était faire un peu le contraire, de changer de modèle de référence, quoi.
Tout à fait. Si la télévision devait faire quelque chose, elle ne devait pas arriver en marge de temps en temps pour venir dire c'est comme ça, c'est comme ça.
C'est pas la cerise sur le gâteau, quoi.
Ben non.
Ça devait être autre chose.
Le problème jusqu'à présent, et moi c'est à ça que je songeais, ce qui s'était fait en télévision, c'était de l'illustration. C'est-à-dire qu'à supposer que la télé tombe en panne, la classe marchait très bien, d'autant plus qu'elle avait un bon instituteur, etc. Et en général, les instituteurs qui prenaient la télévision, c'était aussi des bons instituteurs. Mmh. C'était pas ce qu'on raconte, le maître qui met le poste et puis qui s'en va. Mmh. C'était le gars qui utilise la télévision quand il l'entend, etc., etc. Donc c'était des bons instituteurs, donc ils pouvaient s'en passer. Mmh. Mais ils prenaient la télé en plus pour faire quelque chose de mieux. Mmh. Alors moi, ce que je voulais voir, c'était utiliser la télévision pour, de A à Z, faire des choses essentielles. Mmh. Et alors, le cas du Niger m'intéressait à un deuxième titre, c'est que on devait faire des classes qui n'utilisent pas des maîtres qualifiés. Mmh. C'est-à-dire qu'on prenait des jeunes Nigériens qui avaient le brevet. Alors, c'était pas beaucoup, puis c'était un brevet nigérien, si j'ose dire. Donc, c'était des types pas forts. Alors, on avait donc sélectionné des jeunes Nigériens, non pas sur leur qualité académique, puisqu'ils faisaient des fautes d'orthographe que c'était pas possible, et des tas de choses, mais sur le fait qu'ils parlaient un français convenable, et ils avaient envie de travailler dans cette affaire-là. Ça ne les gênait pas de travailler avec la télévision, etc. Et ils étaient débutants.
Oui, vous aviez aussi ce critère-là. C'était des débutants.
Heureusement, d'ailleurs. Mm-hmm. À l'époque, on ne pensait pas. On l'avait fait parce qu'on les payait moins cher. C'est ça. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était une chance qu'ils soient débutants. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir dire « Ah, mais moi, dans ma classe, je fais ça, je fais ça. » Chaque fois qu'on a voulu mettre de la télévision dans des systèmes scolaires qui avaient des enseignants en poste depuis un an, deux ans, dix ans, quinze ans, on tombait sur des difficultés parce que le maître disait « mais ça, moi jamais j'enseigne ça » et puis « mais j'ai pas besoin de ça », il prenait l'émission, il la prenait pas, ensuite il la contredisait, enfin. Tandis qu'avec des jeunes qui démarraient et pour qui c'était tout le programme, bon, ils n'allaient pas contester.
Donc vous les formiez d'une certaine manière,
oui,
en même temps.
C'était exactement ça. On les sélectionnait avec un peu de formation dans un stage de 2 mois, c'était pas beaucoup. Et puis ensuite, on les mettait au travail avec la télévision, 4 fois par jour, tous les jours, pendant toute l'année. Ça faisait donc près de 700 émissions au cours de l'année. Il y a eu 2 temps d'arrêt. Bon, nous avons fait une première période de 4 années, un cycle complet. Mm-hmm. On ne savait pas d'ailleurs si on ferait 4 ou 5 années. Et à la fin de la quatrième année, on nous a dit, alors ça devait être un système qui fonctionne en dehors de l'enseignement et qui n'aboutissait sur aucun examen.
D'accord.
Ça aussi, c'était une utopie un peu... Mm-hmm. Mais ça joue beaucoup, mm-hmm. parce que les élèves n'étaient pas notés, mm-hmm. il n'y avait pas de classement, donc ils pouvaient travailler en groupe. Donc, horreur, ils copiaient. Enfin bon. Mais moi, je disais, je m'en moque du moment que s'il copie les choses de bien, et si ça lui apprend quelque chose, l'essentiel c'est qu'il apprenne. C'est pas, mon boulot n'est pas de punir un élève, c'est de, qu'il apprenne des choses. Allez raconter ça aux inspecteurs primaires du coin, qui n'étaient pas tous nigériens. Et bon, donc, on a fait 4 ans. Et puis à la fin de la quatrième année, on nous a dit « Ah, mais il faut faire une cinquième année pour passer le certificat d'études. » Parce que l'aboutissement d'un enseignement, c'est le certificat d'études. Alors nous, au début, on n'était pas parti du tout sur ces bases-là. Il y avait un plan de développement du Niger et la télévision devait se développer. Elle pouvait se développer plus vite que l'enseignement traditionnel. Parce que trouver des moniteurs avec le brevet... Il y en avait beaucoup au Niger, alors que multiplier des instituteurs qualifiés, il fallait se lever matin, puis ils n'allaient pas aller en brousse, ils allaient en ville, etc. etc. Enfin, donc on avait, nous, un système cohérent d'une extension du système télévisuel qui pouvait, en 5 ou 6 ans, couvrir la moitié du pays utile. Enfin. Bon, mais à partir du moment où on disait il faut maintenant apprendre... à préparer les examens, c'était plus ça. Donc il y a eu une cinquième année et toute la vieille équipe qui avait monté Télé Niger au début s'est retirée, il y a eu une nouvelle équipe, alors on a fait des dictées, on a fait des...
La pédagogie a changé alors.
Oui, oui, oui. Et alors la Côte d'Ivoire, voyant ce qui se passait au Niger et que ça marchait bien, avait dit, mais on n'a qu'à prendre la télévision et étendre avec la télévision. Donc, ils ont créé une télé scolaire.
Sur le même modèle, avec les mêmes...
En s'inspirant beaucoup de ça.
C'est-à-dire pas du magistral, on fait autre chose.
Avec, théoriquement, pas du magistral. Ouais. Mais dans la pratique, et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ils avaient non seulement à engager des nouveaux instituteurs, mais ils avaient à utiliser... Et ceux qui étaient en poste. Et alors là, ça bloquait, c'était pas facile du tout. Moi j'ai vu des classes où ça se passait comme s'il n'y avait pas la télévision. Aux heures d'émission, le maître se déplaçait, allait allumer le poste, 20 minutes après il l'éteignait et puis on prenait la classe comme ça. Et il y avait beaucoup de classes comme ça. Mais, chose tout de même étonnante, ça avait de l'effet tout de même. Fait de voir 4 émissions par jour, ouais. Tout enchaîné sur les mêmes sujets, les mômes apprenaient des choses tout de même. Au début, on n'y croyait pas, puis après, on a fait des sondages là-dessus, et on s'est aperçu que les mômes de ces classes-là, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait tout de même. Bon, ils finissaient par retenir des choses, ils avaient vu, ils posaient des questions sur telle et telle chose, puisqu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la télé, donc ils demandaient. Ce qui prouve donc que même sans système concerté, Télé Niger c'était hyper concerté. Il n'y avait pas 5 minutes qui n'étaient pas programmées normalement. Ça marchait pas toujours comme ça parce que il se passait un peu ce qu'ils voulaient dans les classes, mais grosso modo tout de même, tout l'horaire des classes était bien employé, bien bouclé,
en fait.
Calibré pour ça, et donc ça marchait bien. Et en plus, je pensais que l'audiovisuel était en général mal utilisé, parce qu'il n'était pas utilisé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Une fois, j'ai une histoire que je raconte toujours dans une des nombreuses réunions audiovisuelles qu'on faisait dans les débuts de l'audiovisuel dans les années 60, on se trouvait dans un petit patelin, à Nantua dans le Jura, et on faisait des démonstrations avec des films, avec des choses comme ça, et il y avait les enseignants, des directeurs d'école, des inspecteurs. Et puis, à la fin, on présente un petit film sur latitude et longitude, qui était un petit film anglais de schéma animé. Et à la fin de la projection, il y a un type qui se lève, qui dit « Moi, je suis le maire de tel patelin, on va acheter ça chez nous. Parce que j'ai 55 ans, j'ai jamais su ce que c'était que la latitude et la longitude, je viens de comprendre ce qu'est la latitude et la longitude. »
Très belle histoire.
Bon, pour moi, voilà, c'était ça l'audiovisuel. Hein?